Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à lire. Et aujourd'hui, on va revenir sur un album qui a été un vrai coup de cœur pour moi. L'album, c'est une adaptation du romancier Ahmed Saadawi, ça s'appelle Frankenstein à Bagdad. Et c'est assez étonnant, on va partir donc dans la capitale irakienne. Voilà, et pour nous raconter en BD donc ce roman, il y a les dessins d'Antonio Cittadini, et puis le scénario d'Antoine Ozanam, qui est mon invité. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Qu'est-ce qui vous a donné envie d'adapter ce roman qui est un peu fou, hein, quand même, qui est très particulier?
Alors, c'est une proposition de mon éditeur, Jean Jacquet, et j'ai lu et effectivement, je suis tombé sous le charme de l'histoire, de toute l'histoire.
On va le raconter. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que le narrateur cherche le comment commencer l'histoire. Donc, c'est un peu une narration dans une narration. Et on va suivre un monstre, quelqu'un qui crée un monstre au cœur de Bagdad, d'un Bagdad contemporain, qui malheureusement est soumis aux attentats et à la violence. Il y a un peu de tout, il y a beaucoup de thématiques. C'est ça qui vous a plu dans ce roman-là?
Alors, d'abord, effectivement, il y a le mythe de Frankenstein qui est quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis, il y avait la possibilité de parler d'une partie du monde où je ne me serais pas aventuré tout seul, en fait, dans le sens où je ne me sentais pas forcément légitime et avoir assez de culture, de connaissances, etc. Et là, comme c'était l'histoire de quelqu'un d'autre, je me suis dit que c'était le bon moment de s'y attaquer.
Comment on plonge d'ailleurs dans une histoire qui se déroule à Bagdad, cette ville où en plus évidemment c'est ce que je disais, c'est très particulier.
Ah oui, c'est très particulier dans le sens aussi où, évidemment, je n'y étais jamais allé. C'est toujours le cas. Et les documents qu'on peut avoir avec le barrage de la langue, même si on fait pas mal de recherches Internet, etc., moi, j'avais juste peur au départ de faire quelque chose sur le folklore et pas franchement. Mais par contre, Ahmed, il était très bien parce qu'il a relu des choses, il nous a recadré directement, notamment pour les visuels, et ça, c'était super.
Ouais,
Voilà.
c'est une question que je voulais vous poser. Vous avez discuté avec le romancier, il vous a accompagné dans l'écriture du scénario et la
Alors,
réalisation de la
c'est
BD?
pas exactement ça. En fait, il est resté en retrait, mais il nous a donné quand même des indications. Dès qu'il a vu les planches, il a fait, bon alors. C'est bien, vous partez dans la bonne direction, mais. Et à ce moment-là, il nous a parlé des couvre-chefs, de la longueur des tuniques, des machins, des bidules, des couleurs aussi, pour nous dire, bon, voilà, en fait, ce qui existe, c'est ça. Et le reste, non. Donc, on a recommencé un tout petit peu, surtout sur les couleurs, et puis, oui, les différentes barbes, ce genre de petites choses.
Les couleurs sont signées Alexandra Alexakis. Il faut lui rendre hommage, évidemment. On va suivre un personnage qui s'appelle Adi, qui est un chiffonnier, qui raconte qu'il y a une mystérieuse créature qui hante les rues de Bagdad. C'est intéressant aussi de voir l'histoire, non pas par le biais d'un général ou d'un héros, mais par un simple chiffonnier des rues.
Oui, je crois que c'est aussi ce qui fait le charme du roman au départ. Alors, le roman, il y a quelques petites différences évidemment, mais je pense que le journaliste est plus présent dans le roman et a dit un tout petit peu moins. Et moi, je préfère Adi.
Ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a une histoire de journaliste. Parlez-moi un petit peu de votre vision de cette créature. Alors, c'est intéressant, elle est composée de morceaux de cadavres, hein, comme le vrai Frankenstein, et elle va suivre ses buts précis en ayant besoin en permanence de se renouveler. Comment vous la voyez, vous, cette créature?
Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est une créature qui, au départ, se venge de chaque personne qui a tué une partie de la créature. Et évidemment, le principe est que, il peut y avoir même des conflits internes, puisque de temps en temps, ce n'est pas forcément toujours les mêmes méchants qui existent. Et du coup, voilà, elle se pose des questions, cette créature. Alors moi, comment je la vois, ça a été au démarrage, ça a été beaucoup de conversations avec Tony, qui la voyait plus massive, plus super-héros. Voilà, mais maintenant, telle qu'elle est dans l'album, elle me convient complètement. C'est-à-dire que, oui, il y a même des différences de couleur de peau, quoi, entre
Ouais.
chaque partie. Et puis, le fait que dans le roman, il parle de pourriture, c'était très intéressant parce que ça enlevait le côté Frankenstein qu'on connaît dans les films, qui est quand même. On voit les coutures, mais en fait, on ne voit pas les différentes parties. Et là, pour le coup, c'est assez intéressant parce que peut y avoir. Alors, si on a été jusqu'au bout du bout, on aurait pu faire même des différences de bras l'un avec l'autre, qui serait l'un beaucoup plus rachitique, etc., etc. Bon, on a quand même essayé qu'elle fonctionne un tout petit peu, cette créature. Donc, on en a fait, oui, une version un peu trash de Frankenstein, enfin de la créature de
De la
Frankenstein.
créature Frankenstein, puisque c'est le docteur Frankenstein qui donne vie à cette créature. Ce que j'ai trouvé aussi très intéressant, c'est que du coup, par rapport à une adaptation, là, vous ajoutez du visuel et vous ajoutez de la couleur. Alors, comment ça s'est passé avec le romancier? Il a été d'accord?
Je pense qu'il fait comme toute personne qui se fait adapter. Il râle un peu et puis après il se dit que tout compte fait, c'est pas si mal, ou quelque chose comme ça. Je parle de souffrance personnelle d'adaptation où on dit oh là, mais pourquoi avoir acheté les droits si vous faites ça? Mais on a essayé d'être respectueux, évidemment. Il a pu être choqué de deux trois trucs, il nous en a pas parlé en tout cas. Voilà, donc. Ça voulait dire qu'on a fait à peu près le job convenablement, enfin j'espère.
Ce Frankenstein à Bagdad est assez passionnant, mais je me demandais de quoi au fond l'auteur avait envie de parler. Est-ce que c'est un portrait d'une Bagdad de 2005? Ça se passe en 2005, hein, évidemment, sous occupation américaine, avec des attentats et avec une population tiraillée entre les deux. Est-ce que c'est aussi la question un petit peu de la mortalité avec ces bouts de corps qui, une fois qu'ils sont vengés, finissent par tomber et puis il faut retrouver un nez, par exemple, à la créature. Il y a aussi sa mère qui est persuadée que c'est son fils, qui est rentré. Est-ce que c'est finalement une BD, un roman sur l'absence?
Oh, c'est pas mal. En fait, il y a plusieurs niveaux. Il y avait le côté, d'ailleurs, c'est pour ça que Tony a fait un très 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 bon boulot. Il y avait un côté super-héros à ça. Moi, j'y ai vu, comme dans pas mal de comics, une réflexion sur le bien et le mal. Et puisque au fur et à mesure, il doit changer les morceaux de son corps de plus en plus rapidement, il n'a plus le choix. Il prend n'importe quel cadavre et donc il n'est plus constitué que d'innocents. Et à ce moment-là, même la vengeance devient quelque chose qui devient absurde, en fait. Donc il y avait cette thématique-là, moi, qui me plaisait bien parce que. Je crois que je ne connais pas une seule personne qui n'a fait que des bonnes choses dans sa vie. En plus, quand il explique qui il tue, enfin, quand la créature explique ça, de temps en temps, ça devient un peu absurde. Évidemment, on voit aussi le problème ancré en Irak, c'est que oui, il n'y a pas qu'une seule vérité, en fait. Et les Américains foutent comme d'habitude le bordel dans un endroit où politiquement il y a déjà pas mal de choses à réfléchir. Donc oui. Alors par contre l'absence, oui, il y a pas mal de petites choses sur l'absence, c'est vrai. Notamment quand la maman pense que la créature est son fils, il y a pas mal de petites réflexions sympathiques, ouais. Dis-moi.
Est-ce que c'est confortable pour un scénariste comme vous de se glisser dans les chaussons d'un auteur pour faire une adaptation?
Alors, je vais faire mon mea culpa. Au départ, je croyais que c'était super facile. C'est-à-dire que, non, mais j'ai refusé pendant très longtemps de faire des adaptations de romans, sauf si c'était quelque chose qui était vraiment, qui était dans les entrailles, quoi. Un bouquin qui nous a vraiment chamboulé et qu'on est juste à 300%, on l'a vécu à 300%. Donc, au départ, je croyais que ça faisait un peu Reader's Digest, un truc où on se dit, ouais, bon, allez, on va le mettre en image. Et puis, comme ça, ceux qui n'auront pas le courage de lire le roman pourront lire la BD. Et en fait, alors, j'ai appris du métier. C'est que, waouh, déjà, bah, généralement, on a beaucoup moins de pages que le roman. Et en plus, on a du visuel. Donc, on a encore moins de place pour dire des choses. Et donc, on va forcément vexer le romancier ou les fans du roman. Après, oui, on peut y inclure d'autres choses. Donc, ça devient intéressant. Non, moi, j'ai vraiment adoré faire cette adaptation-là en particulier. J'ai vraiment adoré, vraiment beaucoup. Après, il me semble que c'est quand même une facilité qu'on a actuellement en bande dessinée. De ne pas faire appel à des scénaristes et de mettre des auteurs, enfin des dessinateurs, qui ne sont pas généralement d'ailleurs des auteurs dits complets, sur des romans. Et on n'a pas quelqu'un qui réfléchit à qu'est-ce que le bouquin a de particulier. Je pense à deux, trois. Adaptations, par exemple, de Jack London, où même si c'est très beau, les auteurs qui ont fait ces adaptations n'ont pas compris l'intérêt de l'histoire de départ. Ils ont fait un truc très beau, on voit des belles forêts, des loups, des machins, c'est super beau, mais par contre, c'est super creux. Et moi, du coup, ça m'a filé pas mal d'angoisse quand j'ai commencé à adapter en me disant, bon, alors en fait, c'est pas Reader's Digest du tout. Et en plus, est-ce que j'ai bien compris le message particulier de ce roman? Surtout que, alors, sur celui-là, il faut se lever quand même de bonne heure pour comprendre tout. Après 10 lectures du roman, j'y découvre encore des petites choses. Voilà. Et en plus, il faut avoir une culture qui s'approche quand même du roman en question. Et là, bizarrement, je connais pas grand-chose sur l'Irak. Enfin, je me suis renseigné hein, depuis, mais ça reste toujours un peu, voilà, assez particulier.
Et puis on a une vision souvent déformée, et en plus c'était une période terrible évidemment pour le pays. Quels sont vos projets, Antoine? Sur quoi est-ce que vous travaillez?
Alors. J'ai une autre adaptation de roman qui est arrivée à peu près en même temps comme proposition. Et comme le directeur de collection est un copain depuis très 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 longtemps, et il avait encore des cheveux, il comprendra.
Et bim.
J'ai accepté. Voilà. Et puis sinon, bah, je pars sur deux projets qui me tiennent fortement à cœur parce que. Pour le coup, c'est de la vraie fiction pure et dure. Voilà, du coup, je reviens à des choses de fiction pure et dure et ça me fait vraiment plaisir. C'est ni des biographies, ni des adaptations, ni tout ça. C'est de la vraie création de mon petit esprit.
Bon, en tout cas, on lira ça avec grand plaisir. Merci beaucoup, Antoine.
Merci.
Hein, merci à vous qui nous avez écoutés. Vous pouvez continuer à passer votre journée en bande dessinée. On a un peu plus de 370 épisodes maintenant dans nos archives. Bonne journée à tous et à toutes. Prenez le temps de lire ce Frankenstein à Bagdad. C'est passionnant. On se retrouve très vite avec Dans ma bulle.
Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.